Bonjour, merci de m'accueillir ce dimanche en tant que représentant de Celle Belgique. J'ai bientôt voir notre logo qui va s'afficher sur l'écran là-bas. Pourquoi Celle? Service d'entraide et liaison. C'est une association chrétienne de développement humanitaire qui travaille essentiellement en Afrique subsaharienne, j'y reviendrai, et qui vient en aide aux plus démunis de la terre. Venir en aide aux plus démunis de la terre, travailler pour le sel Belgique. Vous vous attendez donc à ce que je vous parle ce matin de justice sociale. Eh bien, justement, parler de justice sociale, d'aide aux pauvres dans un milieu évangélique, eh bien, à ma grande surprise, cela ne va pas de soi. Si le mouvement évangélique a naturellement et historiquement une sympathie pour les plus pauvres, nous ne lions pas naturellement la bonne santé de notre spiritualité à la façon dont nous nous conduisons dans ce domaine. Nous avons souvent tendance à considérer que notre action, notre fidélité à Dieu se mesure à d'autres endroits. On va parler d'évangélisation, on va parler d'éthique sexuelle, d'engagement au sein de l'église locale, de manifestation des dons spirituels, de louanges. Ça, ce sont des thèmes appréciés dans nos milieux. Et loin de moi d'aller dire que tout cela n'est pas en lien avec notre spiritualité. Mais associer attitude vis-à-vis du pauvre et spiritualité ne fait pas partie de nos réflexes premiers. Et pourtant, nous devrions. Je vous invite à nous tourner vers une grande figure de la foi, le prophète Jérémie. Jérémie est très apprécié par les chrétiens piétistes que nous sommes. Jérémie est persécuté à cause de sa foi. Il tient ferme malgré sa douleur. Il prêche la conversion. Il dénonce l'illusion de l'idolâtrie du salut à travers la richesse ou de l'idolâtrie de la puissance. Il appelle à la conversion, au retour à Dieu, il annonce une nouvelle alliance, une alliance où la loi de Dieu sera gravée dans le cœur de chacun. Il a un mode de pensée très contemporain par son côté interpellant et individualiste, et il entre ainsi en résonance à la fois avec la philosophie évangélique en liant foi et vie, conviction et action, et avec les hommes de notre temps qui sont tous assez individualistes. À cause de cela, il plaît. Mais ce que je vous invite cependant à découvrir rapidement aujourd'hui, c'est un aspect trop souvent ignoré de Jérémie, ce prophète de l'intériorité est aussi un ardent défenseur de la justice sociale. Donc je vais prendre un extrait du chapitre 22 de Jérémie comme base de notre réflexion ce matin. Jérémie 22, les versets 13 à 19, et je lis dans la version de la Nouvelle Bible Second. Jérémie 22, 13. Quel malheur pour celui qui bâtit sa maison aux dépens de la justice et ses chambres à l'étage aux dépens de l'équité. Qui fait travailler son prochain pour rien sans lui donner sa paye. Qui dit, je bâtirai pour moi une maison de vaste dimension avec des chambres spacieuses à l'étage. Qui fait percer des fenêtres. La lambrisse de cèdre et l'enduit de couleur rouge. Es-tu roi parce que tu as la passion du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il agissait selon l'équité et la justice. Alors tout allait bien pour lui. Il jugeait la cause du pauvre et du déshérité. Alors tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître? Déclaration du Seigneur. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ton intérêt, pour répandre le sang de l'innocent, pour exercer oppression et brutalité. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur contre Joachim, fils de Josias, roi de Juda. On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, mon frère, quel malheur, ma sœur !» On ne fera pas pour lui la lamentation « Quel malheur, Seigneur, quel malheur, majesté !» Il aura la sépulcre d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Les versets 13 et 14 de ce texte nous apprennent qu'un personnage, dont on découvre très vite qu'il s'agit du roi, se fait bâtir une belle maison. Alors si jamais parmi vous, il y en a qui sont en train de construire une maison, rassurez-vous, rien de répréhensible à cela. Pourtant, Jérémie fait des reproches très précis à ce roi. Cette construction est entreprise aux dépens de la justice et du droit. Le deuxième livre des rois, au chapitre 22, nous apprend en effet que ces travaux sont menés alors que le roi de Juda vient d'imposer une lourde taxation à son peuple pour payer un tribut à l'Égypte. Israël-Juda de l'époque a des points communs un peu avec la Belgique et son histoire. Ils sont coincés entre deux immenses empires, d'un côté l'Égypte, de l'autre côté l'Hittite, Babylone, etc. Et quand ces deux empires régulièrement décident de se taper dessus, ben ils se retrouvent où ? Dans ce petit pays coincé entre les deux, Israël. Ça rappelle un peu l'histoire de la Belgique avec l'Empire français d'un côté, puis les Germains de l'autre côté, et régulièrement, ben, ça venait se taper dessus, ici chez nous. Et donc Joachim, plutôt que de s'en remettre à Dieu, se dit, il faut que je trouve un système pour qu'on arrête tous ces combats chez nous. Et donc je vais faire alliance avec l'Égypte. Il choisit son empire. Mais l'Égypte ne voit aucun intérêt dans son histoire pour elle de rentrer en alliance avec ce petit pays là à côté. Et donne son accord, mais à condition que Israël paye un lourd tribut à l'Égypte. Joachim est d'accord, il paye et donc il vide les caisses de l'État. Et que fait-on quand les caisses de l'État sont vides ? Et là aussi, l'Israël de Joachim a des points communs avec la Belgique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait quand les caisses de l'État sont vides ? On augmente les impôts, ben oui. Oui, mais Joachim est roi. Il peut quand même pas vivre dans la même maison que tout le monde. Imaginez que le pharaon veuille venir me rendre visite. Ça n'arrivera pas, mais bon. Je ne peux pas le recevoir quand même dans une maison toute simple. Donc, il faut me construire un beau palais. Il faut que je puisse jouer mon rôle de roi sur la scène internationale. C'est quand même pour vous servir, vous, le peuple. Oui, mais il n'y a plus de sous. Les caisses de l'État sont vides, on vient de le dire. Donc, pour limiter les dépenses, pour ne pas augmenter la dette du pays, ben c'est simple, on va faire travailler les ouvriers pour rien, sans les payer. Décidément, les choses changent peu sous le soleil. C'est alors que le prophète Jérémie intervient en reprochant au roi de bafouer le droit et la justice. Ce qui équivaut à démontrer que ce roi ne connaît pas Dieu, car l'attitude du roi ne respecte pas l'équité et la justice, en hébreu, mishpat et tzedaka. Ces deux termes sont régulièrement associés dans la Bible. Ils traduisent l'idée d'une action juste, d'une action conforme à la norme, d'une action telle qu'elle doit être. C'est ainsi qu'un juif pouvait vous parler de la tzedaka, de la justice, de sa pomme. Je ne sais pas si quand vous avez regardé une pomme, vous vous êtes dit elle est juste. Mais une pomme est juste si elle a le goût, elle a la forme, elle a la couleur, elle a le jus attendu d'une pomme. Si elle est mofluo, qui est un petit verre tout rose qui en sort pour vous faire coucou et qu'en plus elle goûte l'orange, elle n'est pas juste du tout. Il en va de même pour l'homme créé à l'image de Dieu et son action. Il est juste s'il correspond à ce pourquoi il a été créé. Ces termes décrivent donc la rectitude du comportement, la droiture, l'équité. Et ils le font dans une réalité concrète. L'exemple en est donné dans notre texte par Josias, le père du roi Joachim, également roi, et qui agissait, nous dit ce texte, selon le droit et la justice. Au verset 16, il nous est dit que Josias jugeait le pauvre et l'humilié. Ça signifie qu'il défendait leur cause, qu'il faisait valoir leurs droits, qu'il leur rendait justice, qu'il ne suffisait pas d'être le plus riche au tribunal pour être le plus gagnant, mais qu'on pouvait être le plus petit sans être le plus mort, pour paraphraser Renaud. Le roi juste, le roi qui règne avec Mishpat et Tzedaka, à l'image du Messie à venir, Ce roi-là ne bafoue pas le droit des pauvres. Nous avons ici une construction hébraïque tout à fait classique, où la même idée est reprise deux fois, en termes différents, pour nous dire qu'ils sont synonymes. Jérémie fait ici clairement ressortir que agir selon l'équité et la justice, c'est défendre la cause du pauvre. Et le terme utilisé pour parler du pauvre, il y a deux termes dans ce texte, ani et evayon, signifie le pauvre, le nécessiteux, l'humilié, l'opprimé, celui qui est dans la détresse, le démuni, que ce soit au niveau matériel ou spirituel. Il est à noter que lorsque Jérémie prend Josias comme exemple, il mentionne bien que ce roi mangeait et buvait. Sous-entendu, il mangeait et buvait comme un roi. Pour agir selon la justice et l'équité, Josias n'est pas devenu un ascète. Il ne s'est pas privé de tout. Mais, nous dit Jérémie, il n'a pas oublié le pauvre. Il a agi en sa faveur. Il n'a pas versé dans l'excès. La richesse, dans la Bible, n'est jamais dénoncée comme un mal. Mais l'usage que nous en faisons, selon la Bible, exprime que nous agissons ou non à l'image de Dieu, que nous sommes ou non justes. Ce texte de Jérémie va même plus loin. L'usage que nous faisons de nos richesses démontre que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas Dieu. C'est pourquoi au verset 16, en parlant de Josias qui agissait selon l'équité et la justice, qui respectait et défendait le pauvre et le déshérité, le prophète dit « Astov ». C'est une expression hébraïque difficilement traduisible. Alors je ne doute pas que parmi vous, vous êtes nombreux à parler plusieurs langues. Et que même parmi les plus anciens, il y en a qui sont trilingues, comme le disait un de ces vieux sages que j'ai beaucoup fréquenté. Je suis trilingue, je parle français, je parle wallon et je comprends ma femme. Vous savez donc que parfois, pour traduire une expression qui se dit en un mot dans une langue, il faut un paragraphe entier dans l'autre langue parce qu'on n'a pas de correspondance qui exprime toute la richesse sémantique du terme qu'on utilise dans cette langue-là. Eh bien, c'est le cas avec « astov » en hébreu. D'où la variété des traductions que vous trouverez dans vos différentes versions de la Bible. « Alors c'était bien », »,« Alors tout allait bien » dans la NBS, ou « Alors c'était le bonheur » dans la TOB. « Astov », tout était à sa place, tout était harmonieux, tout était selon Dieu, tout était comme cela doit être, et cela respirait, transpirait la justice, l'équité, et donc le bonheur, tout était en place. Jérémie réagit face à l'égoïsme dont fait preuve Joachim avec son palais, et il le dénonce. Notez bien l'égoïsme de Joachim. Il se masque sous une nécessité d'asseoir son règne face aux autres rois. Donc, sous la nécessité de servir son peuple, j'ouvre ici une parenthèse, remarquez combien nous avons toujours une très bonne excuse pour notre propre égoïsme. J'ai jamais croisé dans toutes les églises où je vais, pour présenter le sel et autres, ou comme prédicateur itinérant, j'ai jamais présenté personne qui me dise « Bonjour, je suis un vrai égoïste, une vraie pince, je ne donne rien, je garde tout pour moi, mais c'est moi d'abord, les autres peuvent crever, parce que je suis égoïste. » Jamais personne ne m'a dit ça. Par contre, vous comprenez, moi je ne peux pas, parce que... vous comprenez, c'est pas possible, parce que... Nous avons toujours une bonne excuse pour notre égoïsme. Nous avons toujours une bonne raison afin de justifier notre attitude, toujours une bonne raison pour expliquer que nous ne pouvons pas être généreux, que nous ne pouvons pas donner, une bonne excuse pour finalement masquer notre égoïsme, comme Joachim. Je suis le roi, je dois jouer mon rôle de roi devant tous les autres. Vous imaginez si on vient me rendre visite en tant que roi, si je n'ai pas un palais, ça la fout mal, quoi. Il faut absolument que j'ai un palais pour... jouer mon rôle de roi, c'est l'excuse de Joachim. Face à cet égoïsme, Jérémie affirme que le bonheur ne consiste pas en la recherche du bien personnel, du bien-être personnel, du prestige, de la gloire, au détriment du bien du prochain, ou en oubliant la pratique de l'équité et de la justice. Le bonheur, lui dit Jérémie, c'est la bénédiction que Dieu donne à celui qui obéit à ses exigences, en particulier, dans ce texte, en matière d'éthique sociale. Et toujours selon le verset 16, c'est cela, connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres. Alors, je suis presque arrivé le premier avec Pierre qui était là avant moi. Ce matin, j'aurais pu me mettre à la porte et vous demander à chacun, « Bonjour, vous venez dans une église, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que connaître Dieu ?» J'aurais certainement eu énormément de très bonnes réponses, mais je suis quasi certain que connaître Dieu, c'est rendre justice aux pauvres, celle-là, je ne l'aurais pas entendue. Pourtant, regardez bien le texte de Jérémie, « N'est-ce pas cela me connaître ?» Parole du prophète Jérémie. « N'est-ce pas cela me connaître ?» Parole de l'Éternel. Il insiste, Jérémie. Cette affirmation permet bien de situer l'enjeu théologique de l'intervention de Jérémie dans les affaires politiques, économiques et sociales. La recherche du bien et de l'équité, le respect des droits des pauvres, des faibles, des démunis, des exclus, ce n'est pas juste une préoccupation humaniste, mais c'est une préoccupation théologiquement fondée. Autrement dit, nous ne devons pas nous en préoccuper simplement parce que nous faisons partie de la grande famille humaine, mais avant tout parce que nous sommes chrétiens. Cette action sociale découle de notre conversion, de notre justification et de notre sanctification. Se soucier du pauvre est une priorité fondamentale du christianisme et l'histoire, malgré tous ses errements, tous ses soubresauts et ses erreurs, le démontre. L'aide sociale, encore aujourd'hui, est la plus développée dans les pays qui ont un arrière-plan chrétien. Le souci du pauvre est constitutif de la connaissance du Seigneur. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et ne pas se soucier de justice sociale. Selon Jérémie, connaître Dieu se traduit concrètement par le fait de vivre des relations sociales justes. Mais Jérémie ne sépare jamais cet aspect de la connaissance de Dieu, des exigences de fidélité cultuelle, ni d'une relation filiale avec Dieu. Connaître Dieu, si on prend donc toute la théologie de Jérémie, a une dimension spirituelle, cognitive, relationnelle, pour déboucher sur de la pratique. Connaître Dieu a d'abord, et ça nous semble évident, une dimension spirituelle. Mais chez Jérémie, il insiste là-dessus, ça veut dire être fidèle au Dieu de l'Alliance, être capable de dénoncer toutes les idoles dans ma vie, y compris moi. Parce que si nous réfléchissons bien, notre idole, c'est souvent nous. Qui nous préoccupe? Pour qui nous inquiétons-nous? Qui servons-nous? Moi. D'ailleurs, vous connaissez la définition d'un égoïste, hein? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Connaître Dieu a une dimension cognitive, donc une dimension de discernement intellectuel, de réflexion théologique, être informé de l'œuvre historique accomplie par Dieu et des exigences de son alliance. Il faut connaître qui est Dieu. Il ne suffit pas de s'adresser à quelque chose que l'on nomme Dieu, pour que cette chose soit Dieu. Ce n'est pas parce que j'appelle, je vais prendre un exemple, bateau, une statue Dieu, qu'elle est Dieu. Ce que nous nommons Dieu peut très bien ne pas être Dieu. D'ailleurs, si l'on traduit littéralement, le terme biblique pour idole, cela donne image de Dieu. Ce n'est pas autre chose que Dieu, c'est juste une image de Dieu. Et donc ce que nous appelons Dieu peut très bien être une image que nous avons construite et qui devient Dieu pour nous. mais qui est une idole au sens biblique. Puisque Dieu est Dieu, je ne peux le connaître qu'en écoutant et étudiant ce qu'il dit de lui, sinon je risque bien de me tromper et de prendre une citrouille pour un carrosse. Connaître Dieu a ensuite une dimension relationnelle. Connaître Dieu comme Père. Car Jérémie aime appeler Dieu Père, ce qui, à son époque, est une révolution. C'est absolument pas courant. Les Juifs de l'époque, Dieu, c'est l'Éternel des armées, c'est le Tout-Puissant, c'est le Tout-Autre. C'est pas mon Père. Et Jérémie dit si, c'est celui avec qui je peux être en relation directement, celui que je peux prier, celui qui me répond à travers sa parole. Enfin, connaître Dieu a également une dimension pratique. Obéir aux exigences de l'alliance de Dieu envers la communauté, d'où l'importance accordée aux prescriptions éthiques concernant la vie quotidienne et sociale, et donc l'intervention en faveur des plus démunis. Connaître Dieu, c'est donc reconnaître ses revendications sur l'ensemble des domaines de la vie de son peuple et de sa création. C'est reconnaître sa seigneurie universelle. Parce que puisque Dieu est Dieu, il est le Dieu de toute ma vie. Pas seulement le Dieu de ma vie spirituelle, pas seulement le Dieu de mon dimanche matin. Parce que Dieu est Dieu, tous les domaines de ma vie le concernent. Il n'y a donc pas de séparation dans la foi chrétienne entre d'un côté la piété, et de l'autre côté, l'éthique, entre la pratique de la justice sociale et la pratique du culte, entre ce qu'on appelle l'orthodoxie, la juste manière de penser, et l'orthopraxie, la juste manière d'agir. La piété authentique passe aussi par la justice sociale. Il n'y a pas de disjonction chez le chrétien entre ce qui serait un domaine profane et ce qui serait un domaine religieux. Puisque Dieu est Dieu, tout est religieux. Tout concerne ma relation à Dieu. Dieu n'est pas Dieu le dimanche, et puis pas le lundi matin quand j'arrive au boulot quand même. Ou pas le vendredi soir quand je remplis ma déclaration d'impôt et qu'il y a des trucs quand même que j'aimerais bien. Non, Dieu est Dieu. Ça a aussi été un des apports fondamentaux de la réforme. Pour les réformateurs, la manière d'agir et de se comporter est un témoignage de ce qui est cru. Calvin va définir le péché de la sorte, je le paraphrase, « Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. » Appliquez ça à n'importe quoi, ça marche. Péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Avoir la foi, c'est suivre les prescriptions de Dieu, même lorsque, à vue humaine, j'ai tout à y perdre. Le fondement de la justice sociale se trouve donc pour les chrétiens dans le caractère même de Dieu, qui agit sur terre avec mishpat et tzedaka, équité et justice. Et puisque ce fondement est en Dieu, il est inébranlable, il ne devra pas varier en fonction des époques, de la situation, des politiques ou de quoi que ce soit d'autre. Dieu nous demande d'être ses enfants, de tendre à lui ressembler, que l'on puisse dire de nous tel père, tel fils, telle fille. En pratiquant le droit et la justice, en faisant triompher la cause de l'humilié et du pauvre à l'image de Josias, le chrétien démontre qu'il connaît Dieu. Alors celui qui pense n'être ni roi ni riche, celui qui pense que l'interpellation de Jérémie ne le concerne pas, doit se souvenir que l'apôtre Pierre dit des chrétiens que nous sommes une nation de rois. Vous êtes, nous sommes, une nation de rois. Ça ne veut pas dire qu'en sortant, vous devez trouver le quartier de Bruxelles sur lequel vous devez régner, ce n'est pas ça. Ça veut dire que tout le rôle dévolu au roi dans l'ancienne alliance, il nous est dévolu aussi. Il dit que nous sommes une nation de rois, il dirait aussi que nous sommes une nation de prêtres. La responsabilité du roi de l'ancienne alliance est aujourd'hui la nôtre. Or, le roi de l'ancienne alliance, C'est celui qui était là pour représenter l'équité et la justice de Dieu sur terre. Aujourd'hui, c'est à nous de représenter cette justice et cette équité. Quant au revenu moyen par habitant, la Belgique est 15e sur une liste de 182 pays au monde. Que nous le sachions ou pas, que nous le reconnaissions ou pas, que ça nous révolte ou pas, les chiffres ne mentent pas. 2% des plus riches de la population mondiale, eh bien nous sommes dedans, si nous vivons en Belgique. Cela laisse beaucoup de pauvres derrière nous quand on sait que dès les environs de la 50e place de ce classement, le revenu moyen par habitant est inférieur à notre revenu d'insertion sociale, l'allocation la plus basse à laquelle vous ayez droit en notre pays. Alors comment faire concrètement aujourd'hui pour pratiquer l'équité et la justice ? Je suis là pour vous proposer une piste d'action claire en vous parlant de l'association Celle Belgique. Et là, je vais me tourner un peu plus vers l'écran.